Pour moi, la famille, c'est l'engagement.
C'est un chaos plein d'amour.
C'est complexe.
Pour moi, la famille, j'avais juste un mot à dire, c'est important.
Mona et moi, on est amis depuis un petit bout, presque 5 ans. Mona, c'est la directrice et fondatrice de la Coalition des familles LGBT+. Quand elle m'a demandé si je serais intéressée à faire un balado sur les réalités des familles LGBTQ+, au Québec, je me suis demandé si j'étais la bonne personne. Je suis un gars trans, bi, de 31 ans, j'ai pas d'enfant, puis honnêtement, j'ai aucune idée si j'en veux. J'ai pris quelques semaines pour y penser, je suis allé lire tous les guides, les rapports, regarder toutes les vidéos sur le site de la Coalition, puis mon constat, c'est qu'avoir des enfants comme personne LGBTQ+, c'est très compliqué. Il y a tout un vocabulaire, des systèmes à naviguer, toutes des affaires que je connais zéro. Par contre, j'ai déjà navigué le système médical et légal québécois, mais pour ma transition de genre. J'ai appris tout un vocabulaire, j'ai appris à naviguer des systèmes. Je pense que si je suis bien entouré, l'audience du podcast pourrait apprendre en même temps que moi. Je pourrais faire un podcast éducatif, qui répond aux questions des futurs parents, mais qui parle aussi de sujets plus spécifiques. Aller chercher des témoignages touchants, des critiques franches du système. Je pense que le projet me tente pas mal, finalement. Après avoir annoncé la nouvelle à Mona, elle m'a assuré que j'allais être bien entouré. Dans un premier temps par elle, mais aussi par Lani, le lacordo aux membres de la Coalition, qui venait juste de finir un grand rapport sur les besoins des familles LGBTQ+, racisées au Québec. En plus, j'avais rencontré un tas de familles LGBTQ+, qui elles aussi avaient bien des affaires à m'apprendre. Ben justement, les deux m'attendent au bureau pour un meeting. Venez avec moi, on va aller les rencontrer. On se rencontre aujourd'hui pour parler du podcast. Mm-hmm. C'est le premier épisode, mm-hmm. n'est-ce pas? Sur pourquoi qu'on fait ce podcast-là, en fait?
Pour les familles.
Pour les familles avant tout.
Uh-huh. Oui. Pour les visibiliser.
Pour les visibiliser.
Pour tout le travail qui a été fait en arrière depuis 25 ans. Hein?
Mm-hmm. C'est vrai, c'est vrai.
Notre anniversaire. Mm-hmm. C'est
vrai. Mais je pense qu'il y avait le projet de Wage que vous avez fait.
Oui, c'est ça. On a eu une subvention pour consulter les familles. Puis ce qu'on a réalisé, c'est qu'il faut qu'on les visibilise plus. Mm-hmm. Ils sont souvent invisibles.
Tu travailles dans ce projet-là, Annie, non?
Exactement. J'ai travaillé sur trois rapports,
oui,
je crois.
C'est
trois
ça.
Gros rapports. Moi, oui. C'était surtout sur les familles BIPOC.
Oui.
Et on a quand même réussi à trouver des familles. C'est vrai que cette catégorie de personnes, c'est difficile à trouver, mais on a quand même réussi à chercher à avoir des personnes qui voulaient bien nous partager leur petit bout de vie. Donc, comme disait Mona, c'est vraiment de les entendre, de les visibiliser, puis de pouvoir faire en sorte que les choses changent après ce rapport-là.
Je me souviens d'être dans la cuisine avec toi, Mona, puis on parlait de comment le podcast pourrait être une manière de célébrer le 25 ans.
Et mm-hmm.
Quelle belle manière de le faire qu'en choisissant 25 familles.
Oui, c'était parfait. Ça faisait du sens.
Ça faisait du sens. Et là, on a commencé à lister. Je me souviens, t'as sorti un papier, t'as commencé à lister les familles. On était rendu à 40 familles, j'étais là. Puis là, j'ai même pas encore commencé à demander à Lani.
Oui, mais on avait trop de choix. Et puis, on aura pu faire un podcast avec une centaine de familles, honnêtement.
Et très facilement. Quand je réfléchissais à comment ça pourrait être un podcast qui s'écoute bien, je me suis rendu compte que quand on part un podcast, la première chose qu'on doit faire, c'est pas lister toutes les familles ou trouver les sujets directement. C'est trouver à qui on s'adresse.
Oui, notre audience cible.
C'est ça. Puis on s'est rendu compte que c'était, de un, les futures familles.
Mais oui.
Donc les gens qui n'ont pas encore d'enfants. Mm-hmm. De deux, les familles. Mm-hmm. Donc les gens qui ont des enfants aujourd'hui.
Mm-hmm.
Ainsi que les professionnels de la santé et des services sociaux.
Oui, éducation aussi.
Éducation, oui. Parce qu'on voulait que... justement, un infirmier, une infirmière, un prof puisse écouter le podcast, puis avoir une meilleure connaissance, donc offrir des meilleurs services et un accompagnement de meilleure qualité à nos familles.
Mm-hmm.
En ayant ça en tête, je me suis dit, OK, comment qu'on fait un podcast qui est compréhensible pour ces trois audiences-là? C'est quand même un gros défi,
mm-hmm.
parce que c'est toutes des connaissances différentes.
Oui, des besoins différents.
Je me suis dit, on va commencer avec 6 épisodes. Donc, les 6 premiers épisodes que vous allez entendre, je les ai pensés dans une optique de une personne qui veut avoir une famille, un couple, 3 personnes qui veulent avoir une famille, qui ne savent pas quoi faire.
Mm-hmm.
Donc, les 6 premiers épisodes, c'est ça. C'est vraiment écouter par le témoignage. On va rencontrer du monde. Cette personne a fait la PMA. Cette personne-là, c'est 3 parents qui ont fait une famille ensemble, etc.
Oui, donc les différents modes d'accès à la parentalité, les différentes configurations familiales mm-hmm. aussi, les différents défis en rencontrant les systèmes.
Ouais, puis ça permet une projection, parce que tu as dit le mot témoignage. Le témoignage, c'est toujours la meilleure manière de se voir, de dire « Ah, mais moi aussi, c'est par là que je veux passer. C'est telle méthode, telle méthode, telle méthode. » Puis on se dit « Bon, ben si eux sont passés, tu sais, si elles sont c'est passées vrai, par là, ben oui. moi aussi, peut-être que je peux y arriver en entendant tout ça. » Donc, ouais, c'est cool ça.
Oui, parce que justement, la coalition a déjà plein de guides sur comment faire. Il y a des groupes de discussion.
On a des ateliers.
Des ateliers.
Pour les futurs parents.
Il y a plein de choses qui sont possibles, mais il n'y a rien comme entendre des gens qui l'ont déjà fait. Des gens qui sont passés à travers, puis de s'identifier, peut-être comme, OK, ces personnes l'ont fait, moi aussi, je suis capable.
Mm-hmm. Oui, parce qu'on est dans le réel.
Oui.
On n'est plus dans la théorie Absolument. Du livre ou des gens qui sont des fois derrière un écran. C'est là, ben, ah, j'entends, c'est vrai, il y a des photos, c'est vrai.
Fait que les 6 premiers épisodes, c'était ça. Et les 10 prochains, parce que c'est 16 épisodes en tout, je me suis dit que ça pourrait être des sujets plus précis. Mm-hmm. Et là, je suis retombé sur WAGE, le projet qui montrait comment les familles Cutie BIPOC avaient besoin de se faire plus représenter, les familles en région éloignée. Et là, j'ai parlé aussi de mon propre agenda, hein? Les familles trans et non-binaires.
Oui.
Ça pourrait être nos 3 enjeux principaux qu'on veut représenter.
Oui.
Et pourquoi qu'on a choisi ces 3 types de familles-là?
Pour les familles BIPOC, par exemple, on sait que ce sont des personnes qui sont aux intersections de différentes discriminations et aussi ce sont des personnes qui sont peu représentées. Si on a regardé les rapports, on réalise que ça a été difficile de les trouver. Donc, on voulait quand même mettre de l'avant les familles qui ont la capacité de venir et même d'entendre les voix, parce que des fois, c'est aussi difficile d'entendre leur voix. Ça, c'est déjà une première chose, puis de voir ben, tous les enjeux qui touchent les différentes familles BIPOC. La coalition étant ce qu'elle était depuis quelques années, c'était quand même assez blanc. Donc, on voit qu'il y a d'autres catégories de personnes qui veulent construire leur famille. Donc, ça, c'était très important de mettre les personnes BIPOC en avant. Donc, ça, c'est ça. Puis, les régions éloignées, c'est un petit peu la même chose.
Oui, c'est ça.
Voilà, la coalition, c'est quand même basé à Montréal, mais on est un organisme provincial. Donc, qui dit provincial, c'est aller à l'extérieur, voir ce qui se passe à l'extérieur et la réalité des familles, donc, à l'extérieur de Montréal est complètement, des fois, différente de celle qu'on peut trouver ici. Donc, aller entendre leur réalité, aller entendre leurs enjeux avec leurs mots, leur façon de s'exprimer avec un vocabulaire qui n'est probablement pas le même que ce qu'on utilise. Puis, de trouver que c'est aussi OK. Puis ça aussi, ça met une nouvelle ère à la coalition.
Justement, si on revient au projet WAGE, il y avait le volet des familles Cutie BIPOC, mais il y avait aussi un volet pour les familles en région éloignée.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, beaucoup de nos membres vivent en région, mais on était tellement montréalo-centrique. Donc, on voulait voir comment mieux rejoindre ces familles et puis comment répondre à leurs besoins, qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc, ça, c'était très important pour nous. Et aussi de les mettre l'avant. Parce que ces familles sont aussi invisibles.
Puis je pense aussi pour les familles trans et ou non-binaires, ben, c'est que c'est un nouveau défi, c'est de naviguer un système qu'on connaît encore moins, dans le sens où est-ce qu'à travers les 25 dernières années, ben, la coalition a vraiment développé une expertise sur comment que les couples de même genre peuvent naviguer le système pour avoir leurs enfants. Mais je pense que quand on inclut là-dedans des personnes trans et non-binaires, il y a un autre level.
Oh my God, complètement. Et puis, c'est comme si on voit dans les derniers 3-4 ans, genre de trans baby boom qui arrive, comme on voyait. Mais d'abord, c'était les mères lesbiennes. Ensuite, c'était les pères gays autour de 2006-2007. On a commencé à voir ça. Puis maintenant, c'est vraiment comme la période pour les personnes trans et non-binaires. Donc, des nouveaux défis.
Exactement. C'est une réalité à laquelle on fait face. Bon, j'aime pas dire ça parce que c'est pas non plus quelque chose de péjoratif. Bien au contraire, c'est juste que les familles changent, les familles évoluent. Et puis, on aime juste ça, pouvoir aider toutes sortes de familles. Parce que c'est ça aussi notre mission. Donc, toutes les familles qui font partie de la diversité.
Donc, on va faire 3 épisodes spécifiquement avec Lani sur les réalités des familles Cutie BIPOC. 2 épisodes avec moi sur les réalités des familles trans et ou non-binaires. Puis on fait 2 épisodes sur les réalités des familles en région éloignée. qu'on est allé les visiter directement.
Moi et June ensemble.
Exactement. La coalition travaille avec les familles depuis 25 ans. Tellement de choses ont été accomplies pendant ces 25 années-là. Puis le résultat de toutes ces années de travail, c'est les familles. Celles qui veulent être visibles, celles qui le sont malgré elles, celles qui préfèrent ne pas l'être, les futures familles, les nouvelles familles et les familles formées depuis très longtemps. Toutes les familles. La coalition se bat depuis 25 ans pour que chaque famille se construise et se développe comme elles le veulent. Mais c'est quoi la coalition des familles LGBT+?
Bonne question. Mais en fait, c'est sûr qu'on est désigné comme un groupe de défense des droits, mais on est beaucoup plus que ça. C'est un organisme qui a vraiment comme créé une communauté pour les familles LGBT+, quand il n'y avait pas de communauté du tout.
Et qui continue toujours à en créer une.
Si on retourne en 1998, puis on va demander à Mona, parce que toi et moi, Lana, on n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre 1998?
Mais en fait, juste avant, 6 semaines avant, notre premier enfant était né. Puis c'était pendant ma grossesse qu'on a eu l'idée de fonder un groupe parce qu'il n'y en avait pas une communauté, il n'y avait pas d'informations, on n'avait pas des droits. Donc, c'était comme vraiment construit pendant ma grossesse.
OK, OK.
Oui. Et puis, on a eu la première réunion quand notre bébé avait juste 6 semaines dans le salon de notre maison.
C'est pour ça que tu te souviens si bien de la date, c'est parce que c'était 6 semaines après la naissance.
Exactement, parce qu'on disait à tout le monde, notre bébé a 6 semaines. Donc, on peut regarder dans le calendrier pour savoir exactement la date.
J'imagine bien organiser une réunion. C'est mon enfant vient de naître quasiment à 6 semaines. Puis là, ça y est, on fait un meeting sur la table de cuisine pendant qu'on allait, pendant qu'on donne le biberon, etc. Oui, on va se battre pour nos droits.
Pas du tout. En fait, comme c'était pas notre intention, c'est parce que j'avais déjà un autre emploi.
Qu'est-ce que tu faisais?
Mais je suis biochimiste de formation, donc rien à faire avec ça. Puis mon idée n'était pas de travailler dans la communauté de tout, c'était de créer une communauté, d'avoir d'autres personnes, d'échanger, parce qu'il y avait un manque de communauté, il y avait un manque d'informations, les gens ne se connaissaient pas. On était à la première réunion, 40 femmes dans notre salon, et puis personne ne se connaissait.
Comment vous avez annoncé cette rencontre-là?
On est allé dans les différentes centres des femmes et puis on a fait des mini-posters, des affiches qu'on a mis. Et je pense qu'il y avait comme des journaux qu'on a publié une annonce. On ne savait pas combien de personnes vont être là et puis il y avait une quarantaine quand même dans notre salon. C'était quelque chose.
Il y avait quand même déjà l'âme revendicatrice, tu sais. Ouais. D'aller poser les choses, tu sais, quelque part.
Pas du tout. Honnêtement, c'était vraiment social au début, mais tout le monde disait la même chose. On disait que comme on est dans des familles ou des futures familles, parce qu'il y avait des futurs parents aussi, où on n'avait pas les mêmes droits que les autres familles et que c'était compliqué pour nous de fonder nos familles. On n'avait pas accès aux cliniques de fertilité, on n'avait pas accès à l'adoption, on n'avait pas comme c'était tellement compliqué pour nous d'avoir des enfants.
Au départ, c'était l'Association des mères lesbiennes.
Oui, c'est ça. C'était le nom qu'on a choisi parce que honnêtement, les pères gays qui fondaient leur famille dans un contexte d'être comme dans une couple de même genre ou comme d'avoir une identité gay, c'était pas là, c'était pas encore là. Donc, c'était les mères lesbiennes. Mais j'avais toujours les États-Unis comme référence et puis j'avais cette idée de éventuellement, peut-être, créer un groupe mixte. Ça, c'était le mot qu'on utilisait dans le temps, le groupe mixte. On était très dans la binarité quand même, mais ça, c'était l'idée.
Donc, comme tu dis, au départ, c'était plus social.
Oui.
Donc, c'était plus de rencontrer d'autres mères, de soutenir là-dedans. Il n'y avait pas de revendication politique.
Non, du tout. Mais c'est assez rapidement devenu comme ça. Une des raisons, c'est parce que moi et ma conjointe Nicole, on se trouvait dans un cas devant les tribunaux. Malgré nous, parce que c'était comme juste quand j'étais enceinte, on a pensé, mais il faut comme mettre les choses en place pour Nicole, qu'elle soit reconnue aussi, mais on n'a jamais pensé qu'on va avoir de la difficulté à faire ça. Pour nous, c'était évident. Et puis là, on a découvert que ça va être plus compliqué. Et en échangeant avec les autres personnes dans notre nouveau groupe, on a réalisé qu'on avait une bataille devant nous.
Parce que tu parles un peu de comment tu comprenais pas, en fait. Tu étais là, comment ça, je peux pas aller dans la clinique de fertilité? Comment ça, Nicole peut pas être la deuxième mère? Comme c'était un peu...
Oui.
Pour toi, ça allait être facile, en fait. Et là, on se retrouve 25 ans plus tard.
Oui, c'est ça. Ouais. J'étais surprise, oui, honnêtement, qu'on n'avait pas ces droits, qu'on n'avait pas accès. Ça, c'était la première grande surprise. C'était que je pouvais pas faire un rendez-vous dans une clinique de fertilité.
Pourquoi?
Parce qu'ils acceptaient seulement les couples hétérosexuels. Mm-hmm. Donc, pas de lesbiennes et puis pas des femmes célibataires hétérosexuelles non plus.
Ça a pris jusqu'à 2002, avant, en fait, que les cliniques acceptent...
2001, en fait. Oui. Oui, c'est ça. On a commencé à cibler les cliniques parce qu'il n'y avait jamais une loi qui disait qu'on ne peut pas avoir accès. C'était plutôt des politiques internes. Okay. Donc, on a ciblé Procrea et puis le Centre de fertilité de Montréal. Puis, on les a demandé pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir accès? Qu'est-ce qui les empêche? On a parlé de la recherche sur nos familles, le bien-être de nos enfants. Puis, on les a convaincus. Mais c'était juste quelques cliniques. Donc, on a dû travailler aussi sur le niveau législatif.
Mais avant ça, qu'est-ce que vous faisiez? Je sais que tu as une petite anecdote.
Avant d'avoir accès.
Au clinique.
Mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient des inséminations maison avec des donneurs connus. Mais pour les couples qui voulaient, ou les individus qui voulaient fonder leur famille avec une banque de sperme, fait qu'on n'avait pas accès, on a dû commander du sperme des États-Unis. Mm-hmm. Puis dans le temps, c'était beaucoup moins réglementé. Donc, n'importe quel médecin pouvait commander du sperme, et puis fait que ma conjointe est dermatologue. Donc là, c'est le médecin, right?
Ça compte.
Oui, ça compte. Donc, elle a commandé du sperme. Et puis, éventuellement, et puis c'est drôle à dire, mais on avait comme un contenant d'azote liquide dans notre maison, ça. Comme un petit R2-D2, comme dans notre maison. Et on avait comme des échantillons de sperme pour différentes femmes qui voulaient faire des inséminations.
Mm-hmm. Donc, vous étiez un peu une banque de sperme.
Mais oui, maison.
Puis... cet azote-là, il fallait la remplir à chaque semaine?
Parce que ça évapore. Donc, c'est qu'il y avait comme une grande camion qui venait sur notre rue pour remplir. Et puis, toute comme la fumée qui allait sur la rue. Nos voisins regardaient ça comme, qu'est-ce qu'elles font là?
Je voulais aller voir les photos de ça.
C'est incroyable. Et donc, c'est ça. Et puis, les matins, quand différentes femmes ovulaient, donc elles coignaient notre porte à 6h ou à 7h du matin pour chercher leur petit échantillon. Et puis, on le mettait dans une thermos.
Elle partait avec ça.
Oui, c'est ça. Assez pour comme, aller à la maison et puis faire les inséminations.
Puis tu penses qu'il y a combien de familles comme ça que vous avez aidé?
Mais pas une tonne, peut-être une dizaine, quelque chose comme
c'est
ça.
C'est déjà quand même quelque chose.
C'est déjà beaucoup.
À l'époque.
Oui.
En premier lieu, plus social, se rencontrer. Après ça, c'est devenu politique.
Oui.
Comme tu disais, parce que toi et Nicole, vous avez poursuivi le gouvernement. Qu'est-ce que vous avez fait?
Mais ce n'est pas du tout notre intention de poursuivre le gouvernement. Mais après avoir comme perdu comme deux cas, finalement, on était devant un juge de la Cour supérieure.
Okay.
Et puis le juge a dit, mais cette demande-là est plus grande que mon âme, Nicole. Et puis c'est une question sociétaire. Et puis on doit impliquer le procureur général qui est là pour défendre le Code civil. Et puis aussi le DPJ. Donc, pour représenter les enfants, quand même si les enfants étaient déjà chez nous, parce qu'à ce moment-là, c'est déjà 4 ans plus tard.
Ouais.
Donc, on avait une deuxième enfant.
Qui est arrivé.
Oui, c'est ça. Donc, c'était pour que nos deux enfants ont deux parents légalement reconnus. Et donc, il y avait le procureur général du Québec, les centres jeunesse, on était évalués comme si on adoptait des enfants.
Donc, ça, c'était, c'est juste pour mieux comprendre, toi et Nicole, vous avez eu vos enfants.
Oui.
Et là, à cette époque-là, c'était impossible d'avoir deux parents de même genre sur un certificat de naissance.
Exactement. C'est comme leur acte de naissance disait mon nom parce que c'est moi qui les ai portés et père non déclaré.
Donc, Nicole n'avait pas de lien de filiation avec les enfants.
Non, okay. Absolument rien.
Puis, vous vouliez que Nicole en ait une?
Mais oui, c'était très important.
Mais je me demande, les familles avant, parce que vous n'étiez pas la première famille de lesbiennes au Québec, qu'est-ce qu'elles faisaient avant?
Mais avant, il y avait juste comme nous, mais un parent légalement reconnu qui était comme parfois OK, puis parfois ça créait des problèmes parce que quand il y avait, comme particulièrement quand il y avait des ruptures dans leur couple. Donc, il y avait deux problèmes dans ça. Un, c'est que parfois la mère biologique bloquait l'accès de l'autre parent à l'enfant. Donc, ça, c'était très dommage. Ou bien le parent social ou non biologique ne voulait pas contribuer à une pension alimentaire et puis il n'y avait aucune obligation légale.
Puis 2002, justement, c'est souvent une date à laquelle on revient. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 2002?
Mais en même temps qu'on était devant les tribunaux, en fait, ce qui se passait devant les tribunaux poussait à le niveau législatif.
Okay.
Et puis, il y avait comme au début un projet de loi qui était créé par le gouvernement du Parti québécois avec l'idée de reconnaître les couples. Parce que les couples n'étaient pas non plus reconnus. Et puis, ils ont pensé à faire la bonne chose, mais en fait, pour nous, c'était comme, il y avait une grande oubli dans ça, l'oubli de, comme, d'inclure les familles. Donc, c'était juste les couples. Donc, on a insisté que ce soit important que les familles soient reconnues aussi. Et puis, donc, c'était en 2002 qu'il y a eu une loi qui a reconnu les familles homoparentales. Puis, c'est que, aujourd'hui, c'est un peu évident, mais dans le temps, c'était super, super progressiste de reconnaître les familles homoparentales. Je pense qu'on était comme probablement une des premières juridictions au monde de faire ça.
Souvent, on parle de la coalition qui a un peu qui a eu ses lettres d'honneur à ce moment-là. J'ai l'impression que, je ne sais pas trop, Lani, quand j'entends parler de la coalition des familles, on parle souvent de 2002.
Oui, c'est la date. C'est vraiment ce côté légal-là qu'on associe à la coalition. Mais c'est vrai que ça a été un gros morceau. Moi, je suis arrivée en 2002. Donc, quand je suis arrivée en 2002, il y a plein de petites choses. Bon, je suis rentrée dans le milieu après. Et c'est l'une des premières choses. Donc, automatiquement, je l'ai associé et je me suis dit, ah tiens, la coalition. Tiens, quand je suis arrivée, la coalition était en train de vraiment travailler sur quelque chose de gros.
C'est drôle que tu es arrivée en 2002. C'était comme le destin qu'éventuellement, tu vas travailler pour la coalition.
Aujourd'hui, la coalition, c'est trois volets. Un social, comme à l'époque en 98, un légal, qui a continué après 2002, et un éducationnel. Le côté légal, Mona?
Ça continuait beaucoup après 2002 parce que c'était pas la seule chose. Il y avait comme l'accès aux cliniques de fertilité qui continuait avec la loi sur la procréation assistée au niveau fédéral. Il y avait la reconnaissance des personnes trans, des familles transparentales. Il y avait des enjeux quand même. Aujourd'hui, on est dans deux grands dossiers. Donc, la pluriparentalité, donc reconnaître les familles avec trois ou plus parents, et aussi reconnaître la gestation pour autrui, donc l'encadrement légal des familles qui sont fondées avec une personne porteuse. Donc, ça continue. On était toujours dans la défense des droits, toujours à soumettre des mémoires, à faire des actions politiques, à rencontrer des députés, des ministres.
Ça n'a jamais arrêté.
Non, exact.
Au niveau social, toi, Lani, t'es colonnataire des membres?
Exactement. Je voulais souligner, dans le social, on n'a pas de petite banque de sperme à la coalition. C'est plus,
plus d'actualité.
Non, c'est plus légal non plus.
Non, exact. Mais honnêtement, c'est beaucoup mieux maintenant.
Exactement. Puis en tant que coordonnateur, j'en ai beaucoup d'emails avec des questions comme ça. Est-ce qu'on peut amener le sperme à la maison? Je dis, si vous avez un donneur connu, peut-être, mais si vous passez en clinique, non, ça doit aller à la clinique. Mais c'est un petit peu ça aussi. On fait des conférences, on explique aux parents, aux futurs parents, ben, tous les accès à la parentalité. On le fait sur la GPA, sur la PMA, donc procréation médicale ou artisanale, donc à la maison. Et puis la GPA, donc gestation pour autrui, on a des conférences qui se passent à tous les deux mois, donc qu'on a appelé Atelier 101. Mais surtout, on a l'atelier intensif qui revient à tous les six mois. Puis ça, c'est vraiment là, la roue tournante de la coalition. Si vous n'êtes pas encore venu et que vous êtes un futur parent, vous nous écoutez, inscrivez-vous quand vous voyez ça passer. Et puis, ben, aussi, on a plein d'activités. On a des activités tout au long de l'année, en fait. Ça va de l'activité pour les parents d'enfants 0-5 ans, qui a quand même un super succès, à aussi ben, la fameuse cabane à sucre, les pommes, ça peut être le pique-nique, ça peut être du camping, ça peut être simplement des petites activités d'hiver avec la glisse, etc.
Puis, troisième volet, éducationnel, la coalition forme des gens.
Oui, c'est ça, parce qu'on a réalisé que même si on avait OK, on avait la reconnaissance légale, mais il y avait comme un manque de connaissances sur nos familles, puis un manque d'acceptation sociale. Donc, c'est drôle à dire, mais toute cette idée de formation, ça commençait avec l'idée de faire un dépliant.
Mm-hmm.
Drôlement. Donc, on dit, on va faire un petit dépliant pour parler de la recherche qui a été faite sur nos familles, puis on va distribuer ça aux médecins, aux infirmières, aux travailleurs sociaux, etc. Et c'est devenu un énorme projet. Donc, officiellement, ça a commencé en 2009. On avait une équipe de 10 à 12 formateurs, formatrices qui formaient les professionnels, donc qui allaient dans toutes sortes de milieux, que ce soit milieu scolaire, milieu médical, santé, services sociaux, puis parler de nos familles, de parler de l'homophobie, la transphobie en général. Ça a rendu un énorme morceau de la coalition. Mm-hmm. Comme l'année passée, on a formé presque 7000 professionnels.
Wow.
Donc, c'est énorme.
Le milieu LGBTQ+, et le milieu des familles LGBTQ+, c'est beaucoup de mots. Ça se peut que vous avez entendu plein d'affaires que vous ne compreniez pas. Un de mes défis, en partant de ce podcast-là, c'était de réussir à créer une structure qui faisait que autant les gens qui connaissent tous ces mots-là que les gens qui n'ont aucune maudite idée que ça veut dire puissent écouter et se reconnaître et comprendre. En fait, donc ça, c'était mon défi. Pour maximiser la compréhension, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est une structure solide sur laquelle chaque épisode se repose. Il y a 16 épisodes, plusieurs thèmes. Chaque épisode a un thème. Et par épisode, il y a deux ou trois familles qui nous présentent leur famille. Et un truc qui revient à chaque épisode, c'est une capsule vocabulaire. Parce que c'est compliqué, le vocabulaire LGBTQ+, des familles aussi. Donc, à chaque début d'épisode, on a une petite capsule vocabulaire sur certains mots que les familles vont dire et que l'audience ne va pas nécessairement connaître. Il y a tellement de termes, tellement de petites spécificités par rapport aux familles LGBTQ+, par rapport aux identités, que je me suis dit qu'on allait commencer maintenant à parler de vocabulaire LGBT. À la coalition, on donne une formation, n'est-ce pas, qui s'appelle la soupe LGBTQ+.
Oui, ça, c'est le nom à l'interne.
La soupe alphabet.
La soupe alphabet. Mais en fait, comme je ne me souviens pas du nom exact, mais c'est vraiment pour parler de concepts de base et puis les mots, les acronymes et tout ça, parce que ça fait peur aux gens. Il y a eu une prolifération des mots à travers les années et puis les gens, comme ça a devenu que les gens ont peur de parler parce qu'ils ont peur de comme, faire une erreur et puis utiliser le mauvais pronom. Donc, on essaie de démystifier tout ça.
Puis, on a le droit à l'erreur.
Mais oui.
Mais il faut être ouvert à apprendre.
Mm-hmm.
Donc, justement, on va apprendre un peu. Et en discutant, on s'est dit, ça serait qui la meilleure personne pour expliquer tout ça?
Roxane.
Roxane, qui est justement la co-ordo des formateurs et formatrices de la coalition. C'est aussi quelqu'un qui était formatrice elle-même avant.
Mm-hmm.
Donc, vraiment bien outillée pour nous expliquer plein de termes. On va l'appeler.
OK.
Oui, allô?
Allô, Roxane?
Oui?
Est-ce que c'est bien toi, Roxane?
Oui, c'est moi.
Oui! On
à qui je parle? À qui je parle?
Ah, c'est June et Lanie.
Et Mona.
Et Mona.
Ah, OK. Je m'attendais vraiment pas à recevoir votre appel.
On est en train d'enregistrer pour le premier épisode du podcast et on s'est dit qu'on allait te demander quelques termes parce que qu'est-ce que tu fais à la coalition exactement, en fait?
Ben moi, je suis à la coordination du programme de formation. Donc, c'est moi qui mets à jour les formations puis qui s'assure qu'il y ait des gens dans notre équipe pour pouvoir aller offrir toutes les formations à travers le Québec.
Mm-hmm. Puis, je pense que tu connais bien le vocabulaire parce que toi-même, tu es formatrice, non?
Ben oui, je suis formatrice aussi. Puis, comme c'est moi qui fais la mise à jour des formations, il faut que je me tienne au courant des derniers mots.
Tienne au jus.
Exactement.
Malade. On parlait de comment le vocabulaire LGBTQ+, c'est quelque chose qui change vraiment beaucoup, souvent.
Mais oui, en effet, c'est quelque chose qui change vraiment beaucoup. Puis des fois, mais ça décourage un peu les gens hein, de vouloir se mettre à jour parce qu'ils disent ben, « de toute façon, il va toujours avoir des nouveaux mots
».
C'est vrai. Puis des fois, il y a des gens aussi qui trouvent qu'on exagère en nous, les communautés LGBT+, avec nos nouveaux mots parce que ça devient trop. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est des nouveaux mots, mais c'est pas des nouvelles réalités. C'est des réalités qui ont toujours existé. Mais comme c'est important d'avoir des mots pour exprimer qui on est.
Oui, puis je pense que c'est important aussi de dire que ça a toujours été le système médical, le système légal qui a mis des mots sur nos identités. C'est des mots que les médecins nous ont donnés.
Bien, tout à fait. Hein. C'est des mots qui avaient été médicalisés. Puis souvent, en fait, on associe l'orientation sexuelle, l'identité de genre avec des problèmes de santé mentale. Fait que non seulement c'était médicalisé, mais ça a aussi vraiment une connotation péjorative, certains mots. Fait que là, ben, de plus en plus, les gens dans les communautés se réapproprient certains mots, en inventent des nouveaux mots pour qu'ils soient plus proches de leur réalité, puis essayer de s'éloigner justement du milieu médical le plus possible parce que nos identités ne devraient pas être médicalisées, en fait.
Il y a trois niveaux, il y a trois différents types de définitions que tu voulais nous parler aujourd'hui.
Oui, c'est que quand on parle de la définition des mots, il y a celle que vous allez pouvoir trouver dans le dictionnaire, hein, qui est la définition littéraire ou théorique, qui est la définition que généralement les gens des communautés aiment le moins, parce que c'est la définition qui est la plus éloignée. Souvent, je ne sais pas si vous savez, là, mais les gens qui écrivent les dictionnaires, c'est souvent un même groupe de personnes. Donc, c'est souvent des hommes blancs, cis, hétéros, qui définissent les mots pour nous. Fait que c'est rarement la définition qui est la plus représentative. Les mots, les définitions que vous allez me demander aujourd'hui, mais j'imagine que moi, je vais vous donner les définitions communautaires, qui sont les définitions qui sont généralement le plus utilisées dans les communautés LGBT+. Fait que c'est quand même des définitions qui sont un petit peu plus normées, dans le sens où c'est généralement, c'est ce que ça veut dire. Mais la définition que vous devriez toujours prioriser là, quand vous êtes avec des personnes LGBT+, ben c'est la définition personnelle qui est celle que nous, on préfère. Parce que plusieurs personnes peuvent avoir une définition différente du même mot. Par exemple, moi, je dis que j'utilise le mot « queer » pour parler de moi-même, mais j'ai d'autres amis qui sont « queer » qui utilisent le même mot, mais qui vont avoir une définition différente. Donc, on va privilégier la définition personnelle quand on s'adresse à une personne LGBT. On va pas essayer de lui imposer que ce soit une définition littéraire ou communautaire. Dire, ben là, dans le podcast que j'ai écouté l'autre jour, Roxane, elle a dit telle affaire. Puis c'est comme ça que c'est ça que ça veut dire. Non. On privilégie les définitions personnelles des gens.
Autodétermination.
Autodétermination, exactement, Mona.
Donc, Roxane, comme si on était dans une formation comme n'importe quelle formation de la coalition, comment est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on discute au début?
Bien, un des premiers éléments qu'on explique, dans le fond, en formation, c'est le sexe assigné à la naissance ou le genre assigné à la naissance.
OK, qu'est-ce que c'est?
Bien, c'est une bonne question. C'est le sexe assigné à la naissance, c'est l'acte médical qu'un ou une docteur fait quand un bébé vient au monde. Donc, quand un bébé vient au monde, on regarde dans ses jambes. Si l'enfant a un pénis, on va dire que c'est un garçon. Si l'enfant a une fille, une vulve, excusez-moi, on va dire que c'est une fille. Fait que là, on va venir cocher une case fille ou garçon. Donc ça, c'est vraiment, c'est un acte médical que le médecin fait quand un enfant vient au monde.
OK. OK, donc ça, on dit comme c'est une fille ou c'est un garçon, mais est-ce que ça, c'est son genre? Comme quand on regarde entre ses jambes, est-ce qu'on détermine son genre?
Ben en fait, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pour ça que des fois, il y a des groupes qui vont dire sexe assigné à la naissance, d'autres qui vont dire genre assigné à la naissance. C'est qu'on vient assigner un genre. Hein. On va dire que c'est une fille ou que c'est un garçon. Mais en fait, l'identité de genre, c'est quelque chose qui se construit plus tard. Donc, le genre d'une personne, là, ça commence entre 2 puis 3 ans, puis ça se cristallise entre l'âge de 5 et 7 ans, généralement. Fait que l'identité de genre, c'est comment la personne s'identifie elle-même. Donc, souvent, là, on va associer ça au cerveau si on fait un dessin.
Mais si je comprends bien, comme moi, par exemple, si je me prends comme exemple comme homme trans, mais quand je suis né, on a annoncé à mes parents « Oh, vous avez une fille », mais là, des années plus tard, quand je développais mon identité de genre, donc quand je réfléchissais à qui est-ce que j'étais, mais je me suis rendu compte que je suis un homme. Donc, mon identité de genre, elle est masculine.
Donc, c'était comme si c'était comme une fausse diagnostic.
Ben exact, parce que le sexe assigné, c'est un acte médical. Mais dans le fond, on peut pas le savoir en regardant les organes génitaux de quelqu'un. On peut pas lui assigner un genre. L'identité de genre, c'est plus tard. C'est un sentiment intime et profond d'appartenir à un genre. Donc, d'appartenir soit au groupe social des femmes, au groupe social des hommes, ou bien, depuis 2022, on peut maintenant légalement dire qu'on appartient au groupe social des personnes non binaires. Fait que c'est deux choses complètement différentes. Le sexe assigné à la naissance puis l'identité de genre.
Mais dans la société, il y a ce qu'on appelle la binarité des genres. Les stéréotypes sont autour de deux genres, hommes et femmes.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on assigne seulement deux genres. Hein? Donc, on vit dans une société binaire où on aurait juste deux options. Mm-hmm. Donc, soit être un gars, soit être une fille. Vous l'avez sûrement vu là dans les gender reveals, dans les showers de bébés où est-ce qu'on achète des cadeaux avant même la naissance de l'enfant. Si on apprend que l'enfant a une vulve, on va tout acheter en rose avec des fleurs. Si on apprend que l'enfant a un pénis, on va acheter tout en bleu avec des tracteurs. Puis la binarité des genres, ben, ça amène à plein de stéréotypes.
Mm-hmm. Mm.
On est dans cette société qui dirige tout au niveau de la naissance, mais en fait, au niveau des genres et de l'identité, on peut être soit cis, soit une personne trans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre les deux?
Ben oui, dans le fond, c'est quand même simple. Hein? Des fois, on pense que c'est des mots qui sont compliqués, mais cis puis trans, c'est des modalités de genre. Donc, c'est vraiment juste pour expliquer la relation entre notre sexe assigné à la naissance puis notre identité de genre actuelle.
Mm-hmm.
Donc, si notre sexe assigné à la naissance, par exemple, était fille, puis qu'on s'identifie comme une femme aujourd'hui, donc si notre sexe assigné à la naissance est le même que notre identité de genre, on va dire de nous qu'on est une personne cis.
Mm-hmm.
Ouais. Puis si, à l'inverse, en fait, notre sexe assigné à la naissance, par exemple, c'était fille, mais qu'aujourd'hui, on s'identifiait comme un garçon, comme ce que tu disais tantôt, toi, June, mais là, on va dire que c'est une personne trans. Donc, trans, tout ce que ça veut dire, c'est différent. Donc, c'est que le sexe assigné à la naissance est différent de l'identité de genre.
C'est bien beau, tous ces mots-là, identité de genre, nanana, mais quand on regarde quelqu'un dans la rue comme ça, on ne peut pas savoir c'est quoi son identité de genre.
Mais ça aussi, c'est un bon point. Hein. En effet, quand on regarde une personne, on ne peut pas connaître son genre parce que notre genre n'est pas écrit dans notre front. En fait, c'est comment nous, on se sent à l'intérieur. Par contre, ce que les gens ils font, c'est qu'ils vont regarder l'expression de genre. L'expression de genre, c'est la façon dont on exprime des caractéristiques qui sont socialement genrées.
Mm-hmm.
Mais quand je dis socialement genré, c'est que c'est pas des caractéristiques, on n'est pas en train d'exprimer qu'on est une fille ou un garçon. Si je mets une robe, je suis pas en train de dire au monde entier je suis une fille. Mais par contre, dans notre société, les robes, c'est quelque chose qui est associé à la féminité. Donc, on serait en train d'exprimer des caractéristiques qui sont genrées féminines en portant une robe.
Mm-hmm.
Mais ça veut pas dire qu'une personne qui porte une robe, c'est une femme.
On est beaucoup, effectivement, on est beaucoup dans le genre, donc l'identité, l'expression de genre, mais est-ce que ça a un rapport avec l'orientation sexuelle de quelqu'un?
Ben, pas tout à fait, non, en effet. Des fois, on regarde une personne, si on regarde un homme qui aurait une expression de genre dite un petit peu plus féminine, des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben là, lui, il doit être gay parce qu'il s'exprime, tu sais, il a des caractéristiques plus féminines.
Mm-hmm. »
Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, non?
Puis inversement, si on voit une femme qui porte des vêtements plus masculins, on va dire « Ah, ça, c'est une lesbienne. » Tu comprends? Dans la société, on mélange beaucoup tous ces concepts-là.
Oui.
Alors que c'est des concepts qui sont complètement séparés.
Mm-hmm. Tu veux-tu nous expliquer un peu ce que ça veut dire, justement, orientation sexuelle?
Mm-hmm. Ben, orientation sexuelle ou orientation sexuelle et romantique, en fait, c'est les gens envers qui on est intéressé.
Mm-hmm.
Fait que dans l'acronyme, il y a quelques orientations sexuelles. Hein, quand on regarde l'acronyme LGBT+, ben, le L, c'est pourquoi, selon vous?
Lesbienne.
Bon, ben, lesbienne, c'est généralement la définition, ce serait une femme qui est intéressée par les femmes. Il y a aussi le G dans l'acronyme qui est pour gay. Donc, gay, exact. Donc, gay, c'est plus en français, en tout cas, c'est généralement plus utilisé par les hommes qui aiment des hommes. Mais en anglais, gay, ça peut être utilisé par toutes les personnes qui ont une orientation sexuelle qui n'est pas hétéro, finalement.
Mm-hmm.
Donc, puis il y a des femmes aussi en français qui disent qu'ils sont gays. Donc, G-A-I-E. Puis dans le fond, c'est le mot non médical de homosexuel.
Mm-hmm.
Mais il y en a d'autres orientations. Est-ce que vous en connaissez d'autres?
Et le B dans LGBT. Donc le B, c'est bisexuel.
Ouais, le P,
exact.
Pansexuel. A, asexuel.
Ouais, il y en a plein. Et donc B, bisexuel, la définition communautaire de la bisexualité, ça pourrait être une personne qui est intéressée par deux ou plusieurs genres. Mm-hmm. Donc, la définition littéraire de bisexuel, là, ce serait bi, donc qui est attiré par les hommes ou les femmes. Mais c'est pour ça qu'on n'utilise pas la définition littéraire, parce que dans les communautés LGBT+, il y a plein de personnes bisexuelles qui vont dire « Ouais, moi, je reconnais qu'il existe plus que deux genres. Mmh. Donc, je peux être attirée par les hommes, les femmes, les personnes non-binaires. » P, pansexuel, si on va dans la définition littéraire, pan, ça veut dire tout, hein? Donc un forum pan-canadien, ce sera un forum de toutes les provinces du Canada. Mm-hmm. Donc une personne pansexuelle pourrait être intéressée par tous les genres. Mm-hmm. Mais dans les faits, bisexuel et pansexuel, c'est des définitions qui sont très, très similaires. Puis il y a des individus qui ont une orientation sexuelle qui se ressemble, qui vont dire qu'ils sont bisexuels, alors que d'autres vont dire qu'ils sont pansexuels.
Mm-hmm. Puis dernier truc avant qu'on te laisse aller, là, hétéro-cis-normativité, un gros mot.
C'est un gros mot, mais si on le défait en plus petits mots, là, ça fait moins peur. Donc, hétéronormativité, c'est normativité, c'est ce qui renvoie à la norme. Puis hétéro, c'est une personne qui est intéressée par, si on vit dans une société binaire, par le genre opposé. Puis une personne cis, c'est quelqu'un qui s'identifie au genre assigné, à son genre assigné à la naissance. Donc, l'hétéro-cis-normativité, c'est la norme actuelle dans laquelle on vit, où c'est présumé comme normal. Puis comme c'est normal, c'est présumé voire supérieur d'être une personne hétéro et d'être une personne cis. Donc, on va venir imposer plein de normes sur les gens basées sur l'hétérosexualité puis sur le fait d'être cis.
Mm-hmm.
Puis ça, des fois, là, c'est vraiment banal. Là. Vous en avez sûrement déjà vécu.
Hein? Oui, comme par exemple, justement, si tu habilles masculin puis que tu es une femme, ben tu es lesbienne. Il y a plein de...
Oui, ça, c'est les stéréotypes. Mais en termes des normes aussi, on a comme la norme que comme les familles, par exemple, c'est des personnes hétéro et cis qui font des familles. Donc, c'est comme souvent présumé que les personnes LGBT ne vont pas avoir des enfants.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Tout à fait, ce qui fait que pendant longtemps, on présumait justement qu'il y a des gens qui avaient peur de faire leur coming out parce qu'ils disaient « Mais là, si je suis lesbienne, je ne vais pas pouvoir avoir d'enfant. » Puis ça, c'est à cause de l'hétéronormativité puis la cisnormativité.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à notre appel. Merci beaucoup pour le travail que tu fais à la Coalition.
Ben, merci beaucoup, puis j'espère que ça va avoir répondu à vos questions.
Merci, Roxane.
Oui, merci tellement.
Bye.
Ah, je savais qu'elle serait bonne, Roxane. Elle est tellement pédagogique. Hein?
C'est une belle approche.
C'est sûr, c'est notre coordinatrice des formations. Elle est géniale.
Mm-hmm. Puis qu'est-ce qui conclut l'épisode, en fait? C'est la fin de l'épisode 1. Et vous êtes prêts pour une grosse aventure. Là, on s'apprête à faire 15 épisodes.
Ça va être vraiment génial. Moi, je vous retrouve bientôt pour les épisodes 8 à 10 sur les familles BIPOC. Je suis sûre qu'il y a plein de petites choses de ces familles que vous mourrez d'envie d'entendre.
Ben, merci à vous deux d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous pour lancer officiellement le podcast « Pour moi, la famille ». Ce balado est une production de la Coalition des familles LGBT+. Animation, réalisation et montage par Henry June Pilote. Co-animation par Lani Trilène et Mona Greenbaum. Musique par Nkoussi. Ce balado doit avant tout sa magie et son authenticité à l'accueil chaleureux et sincère des 34 familles et futures familles que nous avons rencontrées. Merci énormément.